Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Bonjour à tous, c'est Dany Baillet, le gourmand d'As, sur Radio MDM 101.1 à Mont-de-Marsan et 93.8 à Banos. On va essayer de faire un voyage toujours aussi gourmand naturellement. Nous allons filer dans le sud-est du côté du Languedoc pour poursuivre l'aventure que nous avions déjà commencée avec un certain nombre de vins de la région. Aujourd'hui, nous avons choisi les Corbières. Pourquoi? Parce qu'ils font aujourd'hui partie des plus grandes tables. Après avoir été les vins de la guerre, les vins aussi un peu du malheur, les vins qui ont arrosé les souffrances des poilus. Donc, il nous semblait, en dehors de toute cette histoire, de parler de cette appellation très importante. Donc, nous allons voir globalement sa situation. On va parler un peu, bien sûr, de son histoire. On va vous présenter ce vignoble que la majeure partie d'entre nous connaissons au moins par l'étiquette. Sa situation, ses sols, quel est son encépagement, quels sont les différents Corbières et bien sûr, immanquablement, nous terminerons avec des accords entre mai et vin pour une dégustation spéciale. Le Corbière ou les Corbières, donc la situation, c'est un vin français aujourd'hui d'appellation d'origine contrôlée, après avoir été un vin produit dans la plus grande quantité possible qui soit au niveau européen. Donc c'est aujourd'hui un vin qui est produit sur un très vaste territoire au sud de l'Aude. C'est, faut le savoir quand même, la première région productrice en volume du Languedoc, mais aussi la quatrième région en France. Pour l'essentiel, bien sûr, nous les connaissons, ce sont des vins rouges au parfum de garrigue, immanquable, mais aussi, bien sûr, des rosés, aujourd'hui de plus en plus nombreux, et quelques blancs, même s'ils sont presque confidentiels, qui sortent du lot et qui valent le coup qu'on en parle. Donc cette région, elle est tenue par 1300 vignerons qui cultivent des parcelles qui font l'appellation pour une production totale de 500 000 hectolitres, ce qui est quand même quelque chose. Alors le Corbière, c'est un massif montagneux très aride, humide à l'est, côté côte méditerranéenne, au fond, cerné au sud par une barrière calcaire assez saisissante qui le sépare du Roussillon, dont nous parlerons un peu, son bon voisin, et nous avions déjà parlé la dernière fois, et un peu au nord, sur un axe qui est le plus vanté qui soit, que je sache, entre Carcassonne et Narbonne. Bien sûr, donc là, nous avons encore une autre région viticole, ce sont plusieurs régions viticoles en une, et à l'ouest, donc une série de hauteurs, telles le Pêche de Beaugarache, dont nous avons entendu tous parler de façon assez inquiétante, il y a quelque temps, lors de la fin du monde annoncée, puisque c'est dans ce village même qu'un certain nombre de journalistes et de personnalités s'étaient massés pour attendre la fin du monde, qui finalement, apparemment, n'a pas eu lieu, puisqu'ils sont tous repartis chez eux. Donc voilà, sur cette situation simple, mais bon, qui se veut efficace, de présentation des Corbières, sur l'histoire, une histoire, bien sûr, qui est très, très riche, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un très vieux vignoble, puisque l'histoire est assez mouvementée, un territoire qui a souvent été acquis de haute lutte contre toutes sortes d'envahisseurs d'abord, bien sûr, et puis aussi sur un territoire et des conditions climatiques extrêmement difficiles. Il faut savoir que ce vignoble a commencé à être implanté au deuxième siècle de notre ère, et il a suivi un développement très important avec les Grecs et les Romains, une période très très faste pour lui, qui en faisait un vignoble très en vue à l'époque, et que chaque guerre sur ce territoire a provoqué des défrichements importants qui permettaient derrière l'installation de vignobles. C'était le cas dans beaucoup d'appellations françaises qui se sont construites sur les restes de la guerre, le défrichement issu de la guerre au sol. Ce qui est surtout pendant les guerres et après que s'est construite la richesse, mais aussi bien sûr la décadence naturellement, et la reconstruction future sur plusieurs décennies de ce vignoble, une histoire incroyable, assez chaotique, puisque au début, le Corbière, c'était le vin de la guerre, on l'a surtout connu au moment de la guerre, où il fallait des stocks importants pour les poilus qui étaient dans les tranchées, et 1 million de morts avant d'être morts, et ils ont beaucoup consommé de vin, notamment de vin de Corbière, et s'il n'était pas que des Corbières, il était un vin fabriqué de toutes pièces entre des vins d'Algérie, des vins espagnols, des vins italiens, mais aussi des vins de la région de Corbière. Donc tout ceci a permis l'enrichissement d'une ou deux coopératives et de quelques particuliers, de quelques châtelains, mais bien sûr construit aussi l'histoire malsaine d'un vin produit en quantité industrielle et qui était plus connu pour la quantité que pour la qualité. Donc au bout d'un certain temps, naturellement, sa réputation qui s'était construite en a fait sa décadence. Et jusqu'aux années 80, le vignoble a beaucoup souffert donc de son passé, de son passé de vin, de quantité, qui était de la vinasse, bien sûr, à l'époque, qu'on retrouvera dans quelques minutes. Et avant que de nouveaux vignerons venus d'ailleurs, ou des autochtones d'ailleurs, redessinent ce vignoble et créent un cahier de charges très qualitatif pour redorer le blason des Corbières, eh bien, je ne manque pas de vous rappeler cette magnifique tirade que nous avait laissé Jean Ferniaud, grand éditorialiste bien sûr du Figaro, mais aussi créateur et éditorialiste de la revue, pas des moindres, Cuisine et Vins de France. En 1982, il titrait sur le renouveau du Corbière, « Le Corbière, une région pinardière qui produit une piquette pissée par des vignes incontinentes ». Mais ça, bien sûr, c'était du passé, heureusement. Et il s'en est expliqué, cette formule d'ailleurs n'était pas de lui, il l'avait reprise, mais savait qu'elle cadrait bien avec le passé historique de cette région qui avait produit vraiment de la piquette et des quantités de vin industriels qui ont alimenté les guerres, les deux guerres successives. Donc le gros de la production, bien sûr, il reste lié à l'histoire des abbayes, ça va de soi, et à la guerre, bien sûr, qui a sévi là-bas contre les cathares notamment. Et lors de la croisade des Albigeois, en fin de croisade des Albigeois, le comte de Beaulieu, après avoir passé au fil de son épée tous ceux qui étaient considérés comme hérétiques, n'a pas hésité à envoyer une armée, il faut quand même le savoir, pendant 4 mois pour arracher carrément et éliminer de la planète tous les vignobles de la région de Corbières. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais noter parce que c'est un fait historique absolument exceptionnel que je crois nous n'avons jamais trop vu ailleurs. Donc voilà pour cette histoire, donc un peu d'histoire sur le Corbières. Aujourd'hui, il est maintenant un vin reconnu et à travers ses cépages historiques et les cépages actuels. C'est fait la progression, la délimitation des territoires, de 3 territoires on va dire, et l'arrivée de nouveaux cépages, surtout la façon de travailler ces cépages, travailler la vigne, eh bien, on a aujourd'hui le vignoble que l'on sait, qu'on va découvrir maintenant. Donc, au nord, les cépages historiques, c'est la Syrah, bien sûr, celle qu'on retrouve dans la côte du Rhône septentrionale, celle qu'on a aussi dans les grands crus du côté d'Ampuy, notamment de la côte rôtie, bien sûr. Un cépage roi qui accepte le soleil, ce qui nous arrange bien maintenant. Un cépage plein d'arômes subtils qui donne les vins légers, des vins à boire jeunes comme des vins de garde aussi, mais surtout des vins à boire jeunes, avec quelque chose de croquant dans la bouche, donc quelque chose de superbe, qui est le cépage à la mode, que l'on appelle aussi dans les pays du Moyen-Orient le Shiraz, qu'on retrouve dans moult pays, aujourd'hui en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, etc., dans beaucoup de pays où le soleil est roi. Ça, c'est plutôt pour la partie nord, donc un peu comme la côte du Rhône. Partie nord, on a plutôt la Syrah. À l'ouest et au sud, se dressent plutôt les cépages locaux. Le Carignan, bien sûr, cépage très fin, qui est merveilleux, qui donne des vins merveilleux s'il est vendangé très mûr. Le Grenache ou Garnacha, que l'on retrouve en Espagne, en Italie. En Espagne, dans tout ce qui est la Rioja, la Navarre, et la Catalogne, bien sûr, cépage roi de la région. Et un cépage plus confidentiel, mais qui permet des assemblages sublimes, avec une forme d'âpreté, mais qui stabilise les vins, c'est le Mourvèdre, qu'on retrouve ici, qu'on avait aussi de l'autre côté de la muraille, c'est-à-dire du côté du Roussillon. Voilà, donc on va reparler, bien sûr. Donc c'est une région, naturellement, grâce à ces cépages merveilleux, d'abord de vins rouges, par excellence, puisqu'on a environ 75% du territoire des Corbières qui sont des vins rouges. Et nous avons aussi, aujourd'hui, avec la mode naissante, ou en augmentation du moins, pas mal de rosés de cette belle région, obtenus par saignée essentiellement, donc dont nous parlerons aussi, et plus confidentiellement, quelques blancs qui bénéficient de la spécificité du sol, et qui viennent essentiellement du grenache blanc, cépage local, de la marsanne, de la roussanne, du bourboulin, on pourrait citer aussi la muscadelle, on pourrait enfin en citer bien d'autres, le vermentino si j'y arrivais. Voilà, cépage aussi présent en Italie, superbe en Corse. Voilà, donc de très beaux cépages qui font aujourd'hui des vins blancs de moins en moins confidentiels parce qu'on peut les consommer en apéritif, vins de plaisir, on peut les consommer aussi sur toutes les entrées, sur des plats de poisson bien évidemment. Voilà, alors que dire aussi donc de la finesse des arômes bien sûr. Ben, elle se fixe par des nuances sur le grenache blanc que je vous invite à découvrir dès que vous le pourrez. Le cépage est indiqué sur la bouteille en corbillard blanc, mais aussi dans les terroirs de garrigue, puisque les terroirs de garrigue sont entrecoupés et sertis de haut relief calcaire, donc avec des parfums plus concentrés, plus forts. Et on y cultive les blancs de Vermentino, là dans cette région plus calcaire, très originaux, mais même s'ils sont minoritaires, vous verrez tout ça est noté normalement sur l'étiquette, le cépage Vermentino. Goûtez ça une fois, ça vaut la peine, ça n'est pas inoubliable, mais c'est un véritable vin de plaisir. La douceur humide de la mer, bien évidemment, elle se frotte aux collines, elles sont très arides, ces collines, elles sont très séchées par la tramontane du Piémont pyrénéen. Ça donne quand même aussi des vins qui expriment vigueur, naturellement. Et tous les contrastes que l'on peut trouver à l'intérieur d'une appellation aussi variée et aussi différente que celle des Corbières. Donc juste un petit rappel d'histoire qui va permettre de mieux comprendre. On voit que le Corbière a connu donc des périodes tourmentées, très variées. On retient de l'histoire contemporaine qu'il s'est servi du développement fluvial, donc une région qui n'est pas restée les mains dans les poches. Développement fluvial, bien sûr, sur le canal du Midi, une véritable merveille. Et aussi des exploitations de vins qui ont permis l'enrichissement, mais aussi de graves crises, hein, comme en 1855, où on se rappelle que c'est l'année de l'exposition universelle où les négociants bordelais et les grands propriétaires ont créé les grands crus classés. Et en 1907 surtout, où à cause de la surproduction, l'impressionnant système de négoce a eu raison de l'ancien système calé sur la quantité de production de masse, le négoce qui en même temps voyait bien cet affaiblissement de la vente de masse, mais qui en même temps en a profité quand même pour s'enrichir avec les guerres. Les guerres successives, donc, elles ont servi d'exutoire, bien sûr, à la consommation excessive de piquettes, c'était le mot. Autour de 1950, c'est là que la volonté réelle de ce terroir avec une poignée de gens s'est mise en place pour faire de la qualité. Et ceci s'est transformé à travers deux grandes dates. 1951, bien sûr, l'arrivée des vins délimités de qualité supérieure, donc le premier pas pour sortir d'un vin de pays, d'un vin de table, vins délimités de qualité supérieure en 1951, et enfin en 1985, après un tri phénoménal à l'intérieur de cette appellation, et donc un cahier de charges très important, c'est l'arrivée de l'appellation des origines contrôlées, l'AOC, donc un pas de géant pour cette région qui était marqué et restera toujours un petit peu, mais par la production de masse, et qui a voulu aller dans la qualité en minimisant la masse, mais par contre en augmentant, à travers le potentiel extraordinaire de ce terroir et de son climat et de ses cépages, en augmentant la qualité, de sorte à ce qu'on trouve aujourd'hui ces vins sur les plus grandes tables. Et on va en parler, bien sûr, après quelques notes de musique qui nous rappelleront la belle période de la consommation de masse.
De France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, pidasse, remplis mon car. Vive le pinard, vive le pinard. Boum, boum, le vieux garçon, on s'éloigne à sa vue. La vieille fille, on la met à l'écart. La vieille bouteille est toujours bienvenue. Plus il est vieux, plus on aime le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, bidasse, remplis mon car. Vive le pinard, vive le pinard. We'll be right back. tombe sur le talus, renverse ta barrière de l'ennemi, renverse le rempart. Dans les bouillots, fiche-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverse ton pinard malheureux. Le pinard, c'est de la mina, ça rechauffe là où est-ce que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon quart. Vas-y, pinasse, vive le pinard. Boum, boum, dans le désert, on dit que le dromadaire n'a jamais soif, mais c'est des racontards. S'il ne boit pas, c'est qu'il n'a que de l'eau claire. Il boirait bien s'il avait du pinard. Le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe. Là où est-ce que ça passe? Vas-y, pinard. Vas-y, vinasse. Remplis mon gars.
Le pinard.
Vive le pinard.
Salut, c'est Lou Gourmandaz. Vous êtes bien sur MDM 93.8 Chalosse-sur-Saint, 101.1 Mont-de-Marsan. Alors aujourd'hui, ben, qu'en est-il des corbières? Je pense que cette appellation, à mon avis, a tout à gagner au foire au vin, contrairement peut-être à d'autres appellations, mais celle-ci, je pense qu'elle a gagné au foire au vin, parce que les tris sont déjà faits. Ben, ces entreprises, avec leur puissance financière, peuvent se permettre d'acheter des quantités importantes et de faire des prix. Donc les prix, ben, on sera entre 5 et 25 euros, on va dire, pour ce qui est de correct, parce qu'à 5 euros déjà, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres appellations, lors des foires au vin, vous aurez vraiment quelque chose de correct, sans aucun doute. De vins de coopérative, par exemple, je vous voudrais laisser une liste derrière. Alors, en premier, je pense à la cave de Roquebert, parce qu'elle se situe à Portel des Corbières, c'est un peu le centre du territoire. La cave Terravigna, qui est maintenant est à la mode, qui a un très très beau marketing sur ses bouteilles, que je vous recommande. Faites aussi la dégustation, c'est bien, mais commencez à regarder aussi le marketing. Il n'est pas dans la bouteille, mais il indique parfois, il donne une idée du travail accompli, du chemin accompli par ces gens pour donner du plaisir aux autres, c'est-à-dire qu'à travers la présentation, il y a aussi la volonté de bien faire, et souvent, elle s'accompagne de vins qui sont à l'intérieur assez bien faits. La coopérative, bien sûr, des maîtres vignerons de Cascastel, à Cascastel de Corbières, très connus, qui font, je crois qu'ils ne font plus de repas maintenant, mais ils font un accueil très sympa avec des toasts et dégustations, voilà, jusqu'à plus soif, je vous le dis, parce que c'est vrai. Ensuite, vin, la cave vin de Corbières, vin comme le chiffre, évidemment, hein, cette petite subtilité ne vous échappera pas. Goûtez-la, il y a de très belles choses avec tous les cépages présents, ça c'est très intéressant. Les celliers d'Orphée, que l'on connaît, une entreprise importante. Hein. Le chai des vignerons, qui est à Lézignan, cœur des Corbières, Lézignan de Corbières, une vieille maison. Donc là, c'est intéressant, parce que du passé, parce qu'un peu de stock, sur l'histoire des cépages locaux, vous aurez plein de choses à apprendre et plein de choses qui vous permettront d'éclaircir et d'améliorer les conditions de votre dégustation. Ensuite, le cellier de demoiselles, bon, très grande maison, hein, bien sûr, à Saint-Laurent-des-Corbières. Vous allez voir quelque chose de sympa, accueil chaleureux. Les vignerons de Roquefort, une vieille maison aussi. Et la cave de Castelmore, dont on n'a pas besoin de vanter les mérites, que vous trouverez en premier rang sur les étals de la grande distribution, bien évidemment, mais qui fait de belles choses. Alors, bien d'autres que j'ai oubliées, bien évidemment, mais qui n'ont pas besoin de mon concours pour être connus. Vous verrez, voilà, qu'on retrouvera dans les têtes de cuvée des choses assez sympas. Le Corbières, aujourd'hui, c'est un vin sympa, c'est un vin qui s'accommode de beaucoup de plats, c'est un vin qui se boit même en apéritif, avec des producteurs vedettes. Alors, je vous ai parlé des caves vedettes. Bon, je vous donne aussi une liste de 5 ou 6 producteurs vedettes, hein, de châteaux. Vous allez vous rendre, vous serez bien sûr très bien reçus, on vous y réservera le meilleur accueil. Alors, je pense au château Meilandi. Pourquoi Ferrals? Parce que c'est quelqu'un qui se situe dans l'appellation Corbière-Boutenac, sachant que Corbière-Boutenac, c'est le haut de gamme un peu de l'appellation de Corbière. Des gens charmants, vous verrez. Un très bel endroit pour passer le week-end. De là, vous pouvez zoner un peu partout à votre gré. Mais déjà, sur l'endroit, dégustation avec Accord Mets Vins, superbe, château Meilandi à Ferrals, en Corbière-Boutenac, le château Grand Guillaume à Cascastel. J'aime bien, des gens qui ont été les premiers, je n'ai pas assez dit, mais dans cette appellation, ben aujourd'hui, un maximum de gens sont en train de passer, si ça en est déjà fait, en bio, voire même en biodynamie pour les plus avancés. Mais en tout cas en bio, c'est sûr, ben, c'est une région qui se prête puisqu'elle est bercée par les vents, elle est souvent assez sèche et aride, qui permet moins aux champignons de se fixer sur les feuilles. Mais n'empêche que beaucoup ont fait l'effort d'être en bio, c'est le cas du domaine de Grand Guillaume, du château de Grand Guillaume. Je voulais parler bien sûr du château Cyrus qui est à Durban, bon, qui est très connu, hein, qui reçoit des visites d'étrangers, qui reçoit des visites en nombre de bus et qui fait de très bons vins de Corbière. Le domaine de la Bouisse, très connu bien sûr, à Saint-André-Roquelongue. Là, je vous conseille aussi de vous y arrêter. Il faut aussi de prendre plus d'une heure parce que sinon vous n'y arriverez pas. Voilà, mais vous en sortirez avec l'esprit échauffé et un coffre plein de bons vins. Le château Labastide, bien sûr, à Escalès, bon, quelque chose de sympa. Alors, j'ai pas fait Escalès par atavisme, hein. C'est parce que c'est aussi une belle région, et donc, quelque chose de sympa, c'est quelque chose de connu, à visiter pour les murs et pour le vignoble et pour le vin. Donc, c'est beaucoup de choses très, très sympas, bien évidemment. Donc, comment décrire un Corbière quand on va le déguster? Alors, je vais prendre essentiellement les rouges d'entrée, bien sûr, hein. Mais ça pourrait aussi être la caractéristique de rosé, puisqu'ils sont les descendants des rouges, hein, non teintés, voilà. Décrire en Corbière, c'est difficile de toute façon, car les sols, le climat, l'encépagement sont tellement variés que c'est dur de donner une seule définition, mais il n'en reste pas moins qu'avant de choisir et donc de déguster. Quelques règles s'imposent, même si des caractéristiques propres à l'appellation sont un peu immuables. Je pense qu'on peut, pour les rouges, parler assez facilement de puissance, ce sont des vins soleil. On peut parler d'épices, bien évidemment, on va en parler plus en détail. De charpente, je crois que c'est le mot, ça n'est pas la même chose que la puissance, c'est encore différent. De nez, bien évidemment, de nez complexe, évidemment. De tanin, et donc de bouche, naturellement. Après, avec l'âge, on sait qu'on a, dans le vieillissement, ben, des notes qui vont plus vers le roussillon. Donc, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir, mais en tout cas, je pense que c'est vrai quand même. Donc, des notes de cacao, des notes de sous-bois, des notes d'humus, de gibier, des teintes animales, comme on dirait en Bordelais ou en Bourgogne, plus animales, voilà, de sous-bois. Mais ça, c'est avec l'âge. C'est quand même intéressant de savoir qu'on peut garder des corbières, surtout ceux qui sont multicépages, hein, qui vieillissent très très bien, tellement ils ont de la puissance, donc de la structure, de la charpente. Donc, et en nez complexe, c'est un nez qui est appelé à s'affiner avec, sur une durée au moins de 10 ans, sans aucun problème. Donc puissance, on ne va pas trop y revenir, évidemment c'est la première chose qu'on sent quand on en prend une gorgée, même quand on l'a dans le nez. Les épices, oui, c'est important. Les épices, parce qu'on est sur des nez très poivrés, des nez d'épices presque de curry, des nez d'épices très complexes parfois, des nez qui sont très chatoyants, depuis des nez qui rappellent un peu, bien évidemment, la garrigue, ça va de soi. Donc, les fruits macérés, mais aussi, bon, on n'est pas dans l'infusion, mais c'est un peu ça. On est quand même dans des parfums très complexes de toutes les plantes de la garrigue, donc qui vous font forcément, quand vous mettez le nez dedans, penser que nous sommes dans le sud-est, ça va de soi. Donc cette complexité quand même est très agréable. Et elle rejoint, elle est donnée par des tanins qui sont petits mais qui sont ronds et parfumés, des tanins parfois peut-être moins complexes que dans d'autres appellations, mais qui sont typiques, qui sont très 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 chatoyants et ronds, vraiment parfumés avec un parfum assez long qui donne une bouche qui est très longue, souvent, qui est persistante. Moi, je dirais que je la trouve un peu chargée parfois, mais pas toujours. Et donc, on n'est pas ici sur la complexité et des Cabernet Sauvignon ou des Merlot de Bordeaux ou des Pinot de Bourgogne, mais ce sont des choses complètement différentes. Cette puissance, ces tanins, cette bouche chargée, mais longue et pleine d'arômes de garrigue, n'est nulle part ailleurs que dans cette région, je pense. C'est ce qui permet à ces vins aujourd'hui d'avoir leur âge d'or, d'être présent sur les plus grandes tables, et on les voit aujourd'hui sur la table des chefs étoilés, accompagner les plus grands plats. Alors on sait que dans les rosés, ils sont souvent puissants est très aromatique. On peut dire que le rosé de Corbière est très aromatique. C'est la vérité. Ce sont essentiellement des rosés de saignée, mais aussi de macération, hein, mais souvent de saignée. Donc des vins qui sont pigés et qui sortent des rosés, donc souvent un peu plus colorés que la moyenne des rosés actuels, un peu comme les Tavel de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des vins qui gardent quand même de la puissance, de la chair, et voilà, sont très enrobés, très très aromatiques. Alors ils sont des rosés de la vinification, issus de la vinification moderne, hein, la vinification carbonique, qui les amène davantage bon, vers la Syrah, par la Syrah, et les fruits et la jeunesse qui en découlent. C'est un cépage qui se prête bien à ce travail et à cette orientation des vins. Il permet de boire des vins jeunes, de boire des vins très agréables, très chatoyants, et de même, il permet aussi de les conserver et de faire un peu de vieillissement. Concernant les blancs, je vous avais dit, donc, bon, on a finalement très très délicat, un vin né très fin, très délicat, fait de fleurs blanches pour l'essentiel, et de fruits exotiques, et qui est marqué par le grenache blanc, cépage typique du secteur, mais aussi bon, avec des cépages comme le picpoule, comme la muscadelle, comme le vermentino, dans l'ouest et l'est. Donc vraiment des vins blancs à découvrir, vous en trouverez de plus en plus chez les bons cavistes et dans la grande distribution, à des rapports qualité-prix superbes, moins chers que d'autres appellations du sud-est, des vins encore abordables que vous pourrez boire dans les 2 ou 3 ans qui suivent sans aucun problème, ils ne sont pas à boire dans l'année, vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être découvert. Maintenant, vite fait, parce qu'on en parle quand même pour terminer, mais comment accorder tous ces vins magnifiques ? Ben, sur des entrées, si j'ose dire, ben, bon, c'est plutôt sur des jambons, je dirais, une ballotine de volaille, du boudin noir et de l'andouille, voilà, des plats marqués par les épices, puisqu'ils vont être contrecarrés par les épices des vins, notamment par les vins rouges, bien évidemment. On peut aller sur des rosés là-dessus, mais surtout des vins rouges. Sur le gibier à poil, ben le Corbière et Roi, bien évidemment, c'est le chevreuil, c'est le sanglier. Si vous pouvez en trouver qui a été fait l'objet de tirs sélectifs plutôt que d'avoir fait de grandes courses devant les chiens, ce sera bien meilleur naturellement. Le lièvre, bien évidemment, sur de la cuisson longue. Le lapin, de Garenne naturellement. Et aussi, bien sûr, dans la volaille, le coq au vin, que vous pouvez marquer facilement par ce vin qui semble très puissant, mais qui finalement se confond très bien avec la chair du coq. Sur les gibiers à plumes, moi, bon, je suis un peu plus prudent, mais n'empêche qu'on peut le faire. Sur le faisan et le pigeon, peut-être pas trop, mais la palombe, parce que la palombe, elle est marquée. La bécassine et le canard, le pigeon, le faisan et la caille, moi, j'irais plutôt sur des vins blancs, mais on peut quand même tenter. On peut tenter des rosés, par exemple, ou des blancs, pourquoi pas. Alors, sur les viandes, eh bien évidemment, l'agneau, en prédilection, ça va de soi. Le veau sous la mer, naturellement, et le bœuf, qu'il soit cuisiné ou grillé, mais cuisiné, naturellement, il sera toujours dominé par ce vin puissant, ce vin de soleil, et qui va l'enrober totalement. Je suis assez favorable pour les bœufs cuisinés au Corbière. Pour les plats régionaux, bien évidemment, mais ne vous en privez évidemment pas. Prenez des vins plus légers, mais le cassoulet, les confits, l'aligot, c'est plutôt les corbières issues de la Syrah. Et bon, certains fromages, pourquoi pas ? Moi, je dirais le Beaufort, parce qu'il est quand même, comme son nom l'indique, plutôt fort, il risque de dominer quand même. On parle d'édam, on parle de brebis, et on parle de certaines pâtes cuites légères. Moi, je suis plus favorable au vin blanc, mais n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir. Et si vous aimez les vins rouges avec ces pâtes-là, avec ces fromages-là, n'hésitez pas. Donc, voyez, une grande, grande palette d'accords, mets et vins. Donnons la priorité quand même au vin rouge, parce qu'il est le plus présent, il a le plus grand choix. Mais vous trouverez des rosés corrects et des blancs à découvrir absolument. Voilà ce qu'on pouvait dire pour clôturer sur ces corbières. On pourrait en parler pendant 3 jours, mais on pourra reparler d'autres vins ou d'autres plaisirs lors de notre prochaine émission. En tout cas, merci à tous, bonne dégustation, bons accords et à bientôt sur nos ondes.